Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Hamlet est une tragédie de William Shakespeare, composée vers 1600 et située à la cour du Danemark. La pièce suit le prince Hamlet après la mort soudaine de son père, le roi. Le spectre du souverain accuse Claudius, frère du défunt et nouveau mari de la reine Gertrude, de meurtre et exige une vengeance. Cette situation de tragédie de vengeance devient chez Shakespeare une enquête morale, politique et psychologique. Hamlet ne refuse pas simplement de punir un crime, il doit déterminer si le spectre dit vrai, si la vengeance peut être juste et quel prix humain son action imposera. La pièce combine intrigue de cour, surveillance, faux-semblants, humour noir et méditation philosophique. Elle examine la fragilité des liens familiaux, la corruption du pouvoir, la mortalité et les limites de la connaissance. Grâce au monologue du héros, le conflit extérieur devient aussi une étude intérieure du doute. Hamlet demeure une œuvre centrale du théâtre occidental par la complexité de sa langue, de ses personnages et de ses questions sans réponse définitive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la vengeance devient une enquête sur la vérité et la justice. Le point de départ de Hamlet appartient au code de la tragédie de vengeance, un père assassiné réclame réparation à son fils. Shakespeare transforme toutefois ce schéma en problème de connaissance. Le spectre affirme que Claudius a tué le roi Hamlet afin de prendre la couronne et épouser Gertrude. Mais Hamlet ne considère pas cette révélation comme une preuve suffisante. Il sait qu'une apparition peut tromper un esprit accablé par le deuil. Son retard ne relève donc pas seulement de la faiblesse. Il exprime le refus de tuer sans certitude dans un monde où les apparences sont instables. La représentation organisée par Hamlet, qui reproduit les circonstances du meurtre devant Claudius, sert précisément à provoquer une réaction révélatrice. Le théâtre devient ainsi un instrument de vérification. Pourtant, même après avoir obtenu un indice puissant, Hamlet reste confronté à une question plus vaste, une vengeance personnelle, peut-elle restaurer la justice, ou ne fait-elle que prolonger la violence ? La pièce montre que le désir légitime de punir un crime se déforme lorsque les institutions sont corrompues et que chacun agit dans le secret. La résolution finale élimine le criminel, mais elle détruit aussi presque toute la famille royale. La justice obtenue ne répare donc pas les pertes qu'elle a contribué à multiplier. Deuxièmement, le conflit entre réflexion morale et nécessité de agir, Hamlet est souvent réduit à un homme incapable de décider. La pièce propose une vision plus exigeante de son hésitation. Le prince se trouve entre deux devoirs incompatibles, honorer la mémoire de son père en punissant Claudius et éviter un meurtre qui pourrait être moralement injustifiable ou spirituellement fatal. Ces monologues donnent une forme intellectuelle à ce conflit. La question de être ou ne pas être ne se limite pas à un désir de mourir. Elle examine la souffrance, la peur de ce qui suit la mort et la manière dont cette incertitude freine les décisions humaines. Hamlet comprend que toute action irréversible exige un jugement, mais il découvre aussi que le jugement absolu demeure inaccessible. Son opposition avec Laërte éclaire cette tension. Laërte répond immédiatement à la mort de son père Polonius et accepte facilement un plan meurtrier contre Hamlet. Sa rapidité paraît énergique, mais elle le rend manipulable par Claudius. Hamlet, à l'inverse, analyse trop longtemps et cause des dommages autour de lui. Shakespeare ne présente donc ni impulsion ni délibération comme une solution simple. La pièce étudie le coût de chaque position agir sans examen, expose à la cruauté, tandis que différer sans cesse laisse le mal consolider son pouvoir. La tragédie naît de cette difficulté à unir conscience, preuve et action au moment opportun. Troisièmement, la cour de Danemark fonctionne par espionnage, rôle et faux-semblants. Elsener est une cour où la parole circule rarement de façon libre. Claudius affiche la maîtrise et la légitimité du roi, alors que son pouvoir repose sur un meurtre caché. Polonius transforme les relations familiales en opérations de surveillance, il envoie des agents observer Laërte et utilise Ophélie pour éprouver les intentions de Hamlet. Rosencrantz et Guildenstern, anciens compagnons du prince, sont appelés pour recueillir des informations sur lui. Dans cet univers, l'amitié, la famille et le conseil politique peuvent devenir des masques au service du contrôle. Hamlet répond à cette situation en adoptant une conduite de folie apparente. Cette stratégie lui donne une marge de parole et rend ses interlocuteurs incertains de ses intentions. Mais la frontière entre rôle joué, deuil réel et désordre mental demeure volontairement trouble. Shakespeare oppose cette folie calculée à la folie de Ophélie, qui survient après la mort de Polonius et la perte de tout soutien. Sa détresse révèle les conséquences concrètes des manœuvres masculines qui ont réduit sa parole et ses choix. Le motif du théâtre atteint son sommet avec la représentation devant Claudius, les acteurs simulent un crime afin de dévoiler un crime réel. La pièce suggère ainsi que la performance peut mentir, mais aussi révéler ce que la politique officielle cherche à enfouir. Quatrièmement, deuil familial, sexualité et corruption du pouvoir royal, la crise de Hamlet commence dans la famille, mais elle prend immédiatement une dimension politique. Le mariage rapide de Gertrude avec Claudius choque le prince, qui y voit une trahison envers son père et une preuve de dégradation morale. Son jugement est violent, mais la pièce ne confirme jamais clairement que Gertrude connaissait le meurtre. Cette incertitude est essentielle, elle empêche de transformer la reine en coupable simple et montre que Hamlet projette aussi son deuil, sa colère et son dégoût sur elle. Claudius, en revanche, unit explicitement désir privé et ambition publique. Il obtient la reine et la couronne par le même acte criminel. Le corps du roi empoisonné devient une image de contamination pour tout le royaume. Les références répétées à la pourriture, à la maladie et aux rites funéraires expriment une société dont les fondations sont compromises. Le destin de Ophélie approfondit cette critique. Soumise aux ordres de son père, de son frère et du roi, elle dispose de peu de moyens pour définir son propre avenir. Sa mort, puis le conflit entre Hamlet et Laërte près de sa tombe, montrent que les rivalités masculines transforment son existence en enjeu secondaire. Shakespeare relie ainsi l'abus de pouvoir au sein de la dynastie à la vulnérabilité de ceux qui ne possèdent ni autorité politique, ni liberté de parole. En dernier lieu, les monologues font de la conscience le véritable espace dramatique. La singularité de Hamlet tient largement à la place donnée à la conscience du protagoniste. Dans les monologues, le public ne reçoit pas seulement des informations sur une intrigue. Il entend une pensée qui se contredit, se corrige et cherche des mots pour affronter ce qui dépasse sa compréhension. Hamlet réfléchit au suicide, à la mort, aux souvenirs, à la culpabilité et à la valeur de la gloire. Ses réflexions devant le crâne de Yorick réduisent les différences sociales et la fierté humaine à une même fin matérielle. Le cimetière, avec ses fossoyeurs, introduit aussi une perspective populaire et comique sur la mortalité, loin de la gravité cérémonielle de la cour. Cette coexistence du burlesque et du tragique est caractéristique de la pièce. La langue ne sert pas uniquement à exprimer des sentiments, elle devient une action. Hamlet teste les autres par des jeux de mots, déjoue les questions indiscrètes et transforme ses monologues en laboratoire de pensée. Cependant, son éloquence ne le sauve pas. Elle rend son expérience intelligible au public, mais elle ne dissipe ni le danger politique, ni les conséquences de ses gestes. La pièce montre donc la puissance de la réflexion verbale, tout en refusant de la confondre avec une maîtrise complète du réel. En conclusion, Hamlet convient au lecteur qui cherche une tragédie dont la force ne dépend pas seulement de son intrigue criminelle, mais de la profondeur de ses conflits moraux. Les étudiants y trouvent un texte majeur pour étudier le théâtre élisabétain, le monologue, la construction du personnage et les rapports entre pouvoir et langage. Les lecteurs de fiction psychologique peuvent y observer une représentation exceptionnellement nuancée du deuil, de la colère, de la conscience et de la méfiance. La pièce demande une lecture attentive, en particulier dans sa langue originale ou dans une traduction annotée, car les jeux de mots. Les contrastes de registres et les ambiguïtés sont essentiels à son effet. Cette exigence apporte un bénéfice intellectuel durable, elle apprend à distinguer preuve, interprétation et certitude dans une situation dominée par les intérêts cachés. Comparé aux tragédies de vengeance plus directes, Hamlet se distingue par son refus de présenter la punition comme une réponse simple. Comparé à des récits politiques centrés sur la conquête du pouvoir, elle donne une place inhabituelle à la vie mentale du personnage qui devrait agir. Shakespeare associe une intrigue très théâtrale, avec spectre, espionnage, mise en abîme et duel, à une interrogation sur la mortalité qui demeure ouverte. Cette alliance entre action spectaculaire et analyse de la conscience explique la place singulière de la pièce dans le répertoire tragique. Elle ne fournit pas une morale confortable, elle oblige plutôt à mesurer les dégâts produits par le mensonge, la violence et les décisions retardées. Si vous souhaitez soutenir William Shakespeare, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.